Aujourd'hui, comme je le disais, nous recevons Jean-Louis Lemoëlle. Jean-Louis Lemoëlle est né le 29 juillet 1938 dans le Morbihan. Il est docteur ès sciences physiques. Il est actuellement directeur du département de géomagnétisme de l'IPGP et président du comité des programmes scientifiques du Centre national d'études spatiales, le CNES. Il est membre de l'Académie des sciences et ancien directeur de l'IPGP. Parmi ses travaux scientifiques, il est spécialiste de l'étude du champ magnétique terrestre, du mécanisme de la dynamo et de la rotation de la Terre. En 1997, il a reçu la médaille Fleming de l'American Geophysical Union et il a publié plus de 200 articles dans des revues spécialisées. Jean-Louis Lemoëlle, je vous cède donc la parole pour une cinquantaine de minutes, après quoi suivra un débat d'une vingtaine de minutes. Je vous remercie.
Bon, merci beaucoup de cette présentation. Donc, mesdames, messieurs, je dois dire combien je suis impressionné par l'auditoire. Je n'imaginais pas qu'un 14 juillet, on puisse rassembler de telles foules pour écouter quelqu'un parler du refroidissement de la Terre. J'en suis tout à fait ravi. Les organisateurs de cette série de conférences, au rythme tout à fait inhabituel, m'avaient proposé initialement de parler de la formation et de l'évolution de la Terre. Alors, c'est un sujet tout de même un peu vaste et je n'étais pas sûr d'avoir toutes les conséquences requises pour en traiter tous les aspects convenablement. La formation de la Terre fait appel à beaucoup de notions de chimie et de géochimie. De plus, vous avez eu récemment, et vous aurez, des conférences qui traitent de la formation des planètes. Donc, j'ai proposé aux organisateurs et obtenu leur accord là-dessus de parler de quelque chose de plus modeste qui est l'histoire thermique de la Terre, l'évolution thermique donc de la Terre, de son refroidissement, puisqu'évidemment, elle se refroidit. Le sujet ainsi limité est sans doute moins fascinant que la formation et l'évolution de la Terre. Néanmoins, j'avais quelques raisons de faire ce choix. D'abord, j'ai maintes fois constaté que c'est un sujet mal compris, y compris par des scientifiques et même par des scientifiques de la Terre. Ensuite, l'histoire thermique de la Terre rencontre des questions aussi essentielles que celles de l'âge de la Terre, et aussi que celle de l'énergie que peut fournir la Terre pour entretenir des phénomènes dissipatifs, c'est-à-dire consommateurs d'énergie, tels que la tectonique des plaques ou le champ magnétique terrestre. Et puis enfin, j'y ai quelque peu travaillé. Alors d'abord, je commence par un avertissement qui est sans doute nécessaire. Je vais parler du refroidissement de la Terre solide. Les conditions de température à la surface de notre planète, vous le savez, et on vous en parlera ou on vous en a parlé, sont fixés par les interactions entre le rayonnement solaire et la réflectance de la Terre, et surtout l'atmosphère. Le flux d'énergie reçu du Soleil est 3000 fois supérieur au flux d'énergie qui sort de la Terre solide et dont je parlerai. Donc, dans la suite de l'exposé, je supposerai tout simplement que la température à la surface de la Terre est fixée et égale à 0 degré pendant toute son histoire. Ce n'est sûrement pas vrai tout au début, mais enfin, pendant la grande majeure partie de son histoire, c'est vrai, et cette condition limite, T égale 0, elle est fixée par les interactions avec le Soleil. Je considérerai aussi que c'est indépendant de... Enfin, qu'il n'y a pas de réaction de la Terre solide sur cette condition-là. Ça n'est qu'à moitié vrai, bien entendu. Donc, la question du refroidissement... Avant tout de même, puisque je vais parler un peu systématiquement de choses dont certains de vous sont familiers et d'autres pas, très rapidement, comment est faite la Terre aujourd'hui ? J'y reviendrai plusieurs fois. Donc, une suite d'enveloppes concentriques. La croûte, ou même la lithosphère à cette échelle, c'est le trait noir. Ensuite, vous avez les deux couches ici du manteau supérieur. Le manteau supérieur, ce n'est pas très compliqué non plus. Il n'y a pas tellement de minéraux. Surtout de l'olivine, qui, vous voyez ici, des olivines et pyroxènes, tout ça, ce sont des silicates, de la formule Mg, Mg pour le magnésium, Fe, le fer, donc Mg, Fe2, Si, le silicium, O4, l'oxygène. Et le spinel, dont vous voyez que le spinel arrive à 400 km, c'est une formule voisine, simplement on a SiO3. Quand on s'enfonce La constitution ne change pas fondamentalement, mais les phases changent, puisque les minéraux vont prendre des phases de plus haute pression au fur et à mesure qu'on s'enfonce dans le globe. Et l'olivine va donner deux produits, MgF et O, ça c'est la magnésovustite, qui est un oxyde de fer et de magnésium, et la pérovskite, alors une des célèbres variantes de la pérovskite, ou plutôt une des variantes de la célèbre pérovskite, MgF et SiO3. Quant au spinel, il se... également sous, en haute pression, il va donner également de la pérovskite. Ce qui fait que dans le manteau inférieur, dans la grande partie du manteau inférieur que j'ai distingué ici, qui va de 700 km de profondeur à la frontière noyau-manteau à 2900 km de profondeur, nous avons essentiellement donc de la magnésovustite, MgF et O, et de la pérovskite, MgF et SiO3, dans les phases donc, de haute pression. Ensuite, vous avez le noyau liquide, qui est fait de fer et d'un élément léger, qui peut être le soufre, l'oxygène, et le silicium. Et puis après, vous avez la graine solide dont le rayon est 1200 km et en gros, c'est du fer pur. Donc voilà ce que l'on sait d'une manière assez sûre sur la constitution de la Terre. Ça, c'est la, voilà une, espèce, une image assez répandue et plus dynamique. La graine, 1200 km de profondeur, une température qu'on estime à 5100 degrés à son centre. Le noyau fluide du fer qui convecte. Une couche limite entre le noyau ici et le manteau là, qui est bien repérée par la sismologie, c'est la couche des secondes qui fait environ 200 km d'épaisseur. Le manteau inférieur qui convecte, le manteau supérieur qui convecte peut-être séparément. Ensuite, la lithosphère, les fameuses plaques tectoniques dont le Pichon vous entretiendra sans doute. Et puis, quelques manifestations de surface. Donc, je vais parler de la dynamique de cette Terre-là. Donc, la question du refroidissement de la Terre est de celle que l'on range dans la catégorie des questions séculaires. Ben, ça veut dire deux choses. Sans doute qu'on s'y intéresse depuis longtemps, disons depuis des siècles, pour prendre le terme à la lettre, et que la solution n'est pas encore aboutie. Et accessoirement, que de nombreux bons esprits se sont employés à l'éclaircir. C'est qu'on connaît depuis la plus haute antiquité que la température augmente avec la profondeur dans la croûte terrestre, au taux d'environ, ça on ne le savait peut-être pas chiffré, mais au taux de, on le sait aujourd'hui, de 3 degrés par kilomètre. Et on sait ça depuis le creusement des premières mines. Et vous imaginez que cette observation a donné lieu à de nombreuses interprétations plus ou moins rationnelles au cours des temps. Je n'en parlerai pas. Ici, j'ai donné quelques noms de personnes éminentes qui se sont intéressées au refroidissement de la Terre. Je ne parlerai que des trois premiers, Buffon, Fourier et Kelvin. Mais d'autres aussi s'y sont intéressés. Il faudrait ajouter Kant et Laplace. Donc, ce n'est qu'au début du XIXe siècle que la théorie de la chaleur de Fourier permet de lier quantitativement la chaleur perdue par la Terre à ce gradient géothermique, c'est-à-dire à cette variation linéaire, au début, de la température en fonction de la profondeur, de cet accroissement linéaire de la température en fonction de la profondeur. Et évidemment, c'est Fourier, Joseph Fourier, qui a fait cette théorie de la chaleur. Je vais le citer. Il s'intéressait beaucoup au refroidissement de la Terre. Je cite Fourier. « La question des températures terrestres, dit-il, nous a toujours paru l'un des grands sujets des études cosmologiques, et nous l'avions particulièrement vu en établissant la théorie mathématique de la chaleur. Dès l'origine de nos recherches, nous avons désiré connaître la loi des températures intérieures d'une sphère solide, primitivement échauffée par son immersion dans un milieu chaud et qui est apportée dans un milieu froid. » Ça, c'est en 1824. Avant de parler du célèbre modèle de Kelvin, fondé sur la théorie de Fourier directement, je vais dire un mot d'un travail antérieur, un travail du XVIIIe siècle, de Buffon. En effet, Buffon tenta de répondre à la question telle qu'elle est énoncée par Fourier 70 ans plus tard, donc 70 ans avant, par l'expérience. Et la question dans les termes mêmes que la posait Fourier plus tard. Buffon fit faire des boulets de fer forgé, et aussi des boulets d'autres matériaux, de différents diamètres, d'un demi-pouce à 5 pouces, et il les fit chauffer dans ses forges, Buffon était maître de forge, entre autres, et il mesura le temps T1 mis par le boulet pour refroidir jusqu'à ce qu'on pût le toucher à la main, le temps T2 nécessaire pour qu'il parvint à la température ambiante, il porta les temps T1 et T2 en fonction du diamètre et obtint une relation linéaire. Alors, je cite la conclusion de Buffon qui est fausse, mais il dit « En supposant, comme tous les phénomènes paraissent l'indiquer, que la Terre ait eu autrefois dans ait été autrefois dans un état de liquéfaction causé par le feu, il est démontré par nos expériences que si le globe était composé entièrement de fer ou de matière ferrugineuse, il ne se serait consolidé jusqu'au centre qu'en 4026 ans, refroidi jusqu'au point de pouvoir le toucher sans se brûler qu'en 46 991 ans, refroidi au point de la température actuelle qu'en 100 696 ans. Buffon réduit un peu cette estimation pour tenir compte que la Terre n'est pas formée de fer. L'observation courante montre qu'elle ne l'est pas à la surface, et il parle de matériaux vitrescibles et calcaires, donc il réduit son estimation à 75 000 ans, ce qui est encore grand comparé au temps qui avait cours à l'époque de Buffon, fondé sur l'étude des textes sacrés de la Bible, telle la fameuse chronologie de l'évêque Huchère. Néanmoins, le raisonnement de Buffon ne tient pas, mais il n'en est pas responsable, la théorie de la chaleur n'existait pas. Ensuite, je viens au modèle de Kelvin, donc, qui est quelque chose qui a fait couler beaucoup d'encre. Pour saisir l'importance de ce modèle de Kelvin, il faut le replacer dans le vaste et vigoureux débat qui anima toute la géologie du XIXe siècle, un siècle fascinant pour la géologie. Donc la lutte entre les tenants de l'uniformitarisme et du catastrophisme, du temps cyclique et du temps sagittal, les partisans de la chronologie longue et de la chronologie courte. Kelvin, donc, dans ce débat de géologue, maintint un point de vue de physicien, et non sans quelque arrogance dans le propos. Je cite, « La Terre perd constamment de la chaleur, ainsi qu'en témoigne l'observation du gradient géothermique. L'idée d'une activité géologique cyclique est absurde. Cette activité doit au contraire décroître régulièrement avec le temps. » Sur le fond, il n'y a pas grand-chose à dire. Alors, je vais présenter le calcul de Lord Kelvin, et tenter de vous dire pourquoi les interprétations qui en ont été données sont, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, souvent fausses. Alors c'est en 1862. Alors Kelvin répond donc exactement à la question que se posait Buffon. Il prend, mais maintenant par le calcul, une sphère qui est portée à une température d'une sphère, imaginons que ce soit la Terre, portée à la température de fusion qu'il prend égale à 3800 degrés, T égale TF. Et puis après, donc, il imagine que cette sphère est placée dans le vide à la température T égale 0, c'est la condition limite dont je vous ai parlé tout à l'heure. Puis il voit comment ça évolue. Mais il fait un calcul plan, parfaitement légitime d'ailleurs dans le cas du calcul de Kelvin, donc je remplace ça par T égale 0 à la surface d'un demi-plan, T égale TF en dessous à l'instant initial. Et puis il voit comment ça se passe. Alors, sans faire de calcul, on voit bien qu'au début, le gradient géothermique, c'est-à-dire la variation, la pente de la variation de température en fonction de la profondeur, va être extrêmement raide, puisque, initialement par exemple, on aura T égale 0 à la surface et T égale TF à quelques centimètres. Donc, 3000 degrés en quelques centimètres. Et au fur et à mesure que la couche supérieure se refroidi par transport de sa chaleur à l'extérieur et rayonnement dans l'espace, le gradient géothermique s'incline, devient de moins en moins raide. Et Kelvin regarde quand le gradient géothermique ainsi calculé atteindra le gradient géothermique mesuré aujourd'hui, qui est de 3 degrés, de 30 degrés par kilomètre, ou 1 degré par 33 mètres, si vous voulez. Alors, le calcul est simple, je vous le donne directement, il est vraiment simple. On trouve que A, H de la Terre, est égal à Tf carré, c'est sa température initiale dite de fusion, divisé par pi, kappa, c'est la diffusivité thermique, c'est le rapport de la conductivité thermique au produit de la densité par la chaleur spécifique, peu importe, et G0, c'est le gradient observé aujourd'hui, donc de 1 degré par 33 mètres. Alors, si vous reportez ça là-dedans, vous trouvez tout simplement 100 millions d'années. Donc, voilà l'estimation de Kelvin, 100 millions d'années. Et donc, la conclusion, c'est que la Terre n'est pas si vieille que cela. Elle n'est pas si vieille que le prétendent les géologues uniformitaristes. Cette valeur de Kelvin, je vais vous dire pourquoi elle est erronée, parce que ça me permet d'introduire le phénomène de convection. Alors, il est généralement pensé que l'estimation de Kelvin est fausse parce que Kelvin ne tenait pas compte de la radioactivité, du dégagement de chaleur radioactive dans le manteau. Évidemment, il ne pouvait pas le faire puisque la radioactivité n'était pas découverte encore. En réalité, ce n'est pas la raison. La raison est que Kelvin faisait appel pour, dans ce modèle, c'est un modèle conductif, un modèle à la Fourier, par transport de chaleur, par conduction, c'est-à-dire par transport d'énergie, de vibration des réseaux. Et ce qui se passe, c'est que la conduction n'est pas un phénomène efficace de transport de chaleur et elle ne peut pas nourrir le gradient adiabatique. Au contraire, on sait aujourd'hui que ce qui transporte la chaleur et ce qui fait se refroidir la Terre, c'est le phénomène de convection qui est un agent de transport de chaleur beaucoup plus efficace. Mais dira-t-on, si on prend, et voilà l'objection qui est souvent faite, si on prend la convection, donc cet agent extrêmement efficace, on va encore refroidir la Terre plus vite. Et l'estimation de Kelvin sera encore à revoir à la baisse. Ça n'est pas vrai quand on pense au principe du calcul. Donc, ce qu'observe Kelvin, c'est qu'effectivement, dans son modèle, le gradient ne met que 100 millions d'années pour atteindre la valeur observée aujourd'hui. Et après, et donc, ils ont déduit que l'âge de la Terre est de 100 millions d'années. En réalité, c'est que la conduction ne suffit pas à évacuer la chaleur interne énorme qui est emmagasinée dans la Terre. Et donc cette chaleur n'arrive pas à la couche superficielle, ce qui fait que le fond est presque séparé de la surface et le gradient géothermique s'effondre, parce qu'on ne peut pas transporter la chaleur. Au contraire, la convection permet de faire cette évacuation de la chaleur des profondeurs vers l'intérieur. Voilà pourquoi donc ce calcul de Kelvin n'est pas juste. Alors Kelvin n'ignorait évidemment pas la convection. La convection est connue depuis fort longtemps. Léonard de Vinci a écrit là-dessus, même sur la convection turbulente. Le maître de Kelvin, Hopkins, était un spécialiste de la convection. Et puis il est trop facile d'observer la convection dans l'atmosphère ou tout simplement dans une casserole qu'on met à chauffer. La difficulté était qu'à l'époque de Kelvin, on n'imaginait pas que le manteau formé de roches, et c'est tout à fait vrai, peut se comporter comme un fluide, puis donc fluer, s'écouler. Et d'autant plus que Kelvin avait fait des calculs fort savants et très justes, Kelvin ne se trompait pas dans ses calculs, évidemment, pas plus qu'il ne s'est trompé là, et pour démontrer que le manteau, la Terre même dans son ensemble, avait la rigidité de l'acier. Il a montré ça en regardant les marées terrestres, enfin certains paramètres des marées terrestres, et c'est vrai. Et donc ce qui se passe, comme souvent en géologie, donc c'est une affaire de grandes constantes de temps, un effet des longues durées. Les silicates cristallisés du manteau, bien qu'ayant en effet la rigidité de l'acier pour les constantes de temps courtes, fluent à l'échelle des temps géologiques, ils se comportent alors comme des fluides très visqueux. Alors on peut penser à l'écoulement de certains matériaux, à l'écoulement des glaciers, ou encore, si je réussis, ça c'est une expérience ultra classique, vous l'avez déjà vu, mais voilà une boule d'élastomère qui est tout à fait élastique quand je la fais tomber, comme ceci, elle est... Il faut faire attention parce qu'elle n'est pas tout à fait sphérique, et donc elle ne va pas exactement où on veut. Mais si, au contraire, si je l'étire comme ceci, et si donc les contraintes appliquées ne varient pas rapidement, elle va, vous voyez qu'elle s'allonge, ça va se rompre, et ça va se rompre de façon fragile. Donc c'est ce qu'il se passe. Le manteau terrestre est indiscutablement solide à l'échelle des courtes constantes de temps, par exemple pour toute la sismologie, pour le terme de Chandler au-dessus, qui est un terme d'une vibration propre de la Terre d'un an de période, mais pour les millions d'années, alors ça devient un fluide visqueux. Donc il convecte. Alors je vais vous dire un mot de la convection. La convection est omniprésente dans la nature. C'est le moteur universel de la géophysique, hein, du noyau jusqu'à la haute atmosphère. On peut citer encore Fourier, parce que Fourier connaissait fort bien la convection, et la décrit bien. Dans l'océan et les lacs, les molécules les plus froides, ou plutôt celles dont la densité est la plus grande, se dirigent continuellement vers les régions inférieures, et les mouvements de chaleur dus à cette cause sont beaucoup plus rapides que ceux qui s'accomplissent dans les masses solides en vertu de la faculté conductrice. Tout est dit, ou presque. Donc je vais brièvement vous rappeler quelques notions de la convection pour appliquer ensuite au refroidissement de la Terre, en prenant comme exemple celui qui est tout à fait raisonnable, une plaque chauffée par le en dessous. Une plaque que je prendrai plane, mais il faut penser à une enveloppe sphérique au manteau. Alors voici... L'affaire, le sujet était peut-être un petit peu austère pour un jour de fête nationale, j'en conviens. Donc, la convection. Quand y a-t-il convection? Alors, je prends une plaque avec une température T égale T0 en haut, par exemple la surface de la Terre, T égale T0 plus delta T en bas, la frontière noyau-manteau. L'accélération de l'apesanteur G dirigée vers le bas, l'épaisseur de la couche H. Si la couche était solide, figée, alors il est facile de... les équations montrent très facilement que le gradient de température il serait tout simplement uniforme. Et avec dt sur dz, c'est-à-dire la pente de ma droite, de croissance de la température en fonction de la profondeur, serait delta t sur h, tout simplement. Si maintenant je considère une petite particule au fond, disons à la frontière noyau-manteau, et que je la fais s'élever d'une quantité petite l, elle va, et supposons qu'elle aille assez vite, elle ne va pas échanger de chaleur avec son environnement. On dit qu'elle s'élève de façon adiabatique, sans échange. Et elle va se refroidir par détente adiabatique parce que la pression est plus faible plus haut, la pression hydrostatique est plus faible quand on s'élève, évidemment. Elle va se, par détente adiabatique, elle va se refroidir d'une certaine quantité qu'on appelle, enfin, proportionnelle à petit l, la montée, et au gradient adiabatique, dt sur dz a. Si la quantité dont elle se refroidit en montant est inférieure au refroidissement naturel dû à delta T sur H, au gradient uniforme, alors elle va être plus froide, elle va être plus chaude que son environnement, et elle va continuer à monter. Voilà donc une condition nécessaire de convection, c'est que delta T sur H, la différence de température imposée aux deux bords de la plaque, soit supérieure à la valeur du gradient adiabatique. Et à ce moment-là, la convection peut démarrer, mais c'est une condition nécessaire. Il est facile de considérer, de calculer le gradient adiabatique, c'est la quantité dont se refroidit un volume de fluide quand il monte d'un mètre en raison de la baisse, enfin de la variation de pression résultant de cette montée. Ici, le voilà, la valeur du gradient adiabatique. G, l'apesanteur, bien entendu, puisque la pression hydrostatique varie proportionnellement à l'apesanteur. Alpha, c'est le coefficient de dilatation volumique, de l'ordre toujours de 10-4. T, la température, c'est la chaleur spécifique. Bon, il est très facile de trouver cela. On trouve d'ailleurs, je le dis maintenant, que dans le manteau, ce gradient adiabatique vaut 0,3 degrés par kilomètre, dans le noyau 0,2. Bon, on peut inverser, on n'est pas à ça près, parce que les paramètres sont quand même assez mal connus. Donc, voilà une condition nécessaire. Alors, ce refroidissement adiabatique, le terme paraît savant, mais là encore, on en a des expériences de tous les jours. Pour la détente adiabatique, vous l'avez, si vous prenez une bombe d'aérosol et que vous pressez, vous allez faire baisser la pression à l'intérieur, et si vous faites ça assez longtemps, vous sentirez à la main que ça se refroidit. Quant à la compression adiabatique, qui est le phénomène inverse, alors c'est la pompe de bicyclette qui montre admirablement comment ça marche. Hein. Vous avez très exactement là la compression, le réchauffement adiabatique, avec là quelques pertes de chaleur. Mais cette condition-là, pour être nécessaire, n'est pas suffisante. En effet, des effets antagonistes vont s'opposer à la montée de la particule, en particulier, bien entendu, les forces visqueuses qui s'opposent à l'écoulement. Et on montre que pour qu'il y ait une autre condition, mais celle-là est suffisante, à condition que la première soit réalisée, c'est on introduit le nombre de relais, qui en gros est le rapport des forces qui montent, des forces de flottabilité. Donc vous y retrouvez G, l'accélération de l'apesanteur, alpha, le coefficient de dilatation thermique, H3, ça c'est un peu plus compliqué à expliquer, delta T, la différence de température, et sur les forces qui freinent, nu, la viscosité. Donc encore une fois, la viscosité, c'est ce qui s'oppose à l'écoulement, et K, c'est à nouveau la diffusivité thermique, parce que si la conduction est très forte, il n'y aura pas besoin de la convection. Donc il faut que le nombre de relais atteignent une valeur supérieure à une valeur critique qui est assez facile à calculer, qui est de l'ordre de 2000. Alors, il y aura convection. Dans le manteau, le nombre de relais est de l'ordre de 10 puissance 6 d'un million, donc assurément le manteau convecte. Le noyau, le nombre de relais, j'en ai oublié la valeur, mais assurément il convecte aussi. Bon, une dernière notion, les couches limites. Je ne peux pas ne pas en parler, parce qu'elles sont d'une importance capitale dans la théorie du refroidissement de la Terre. Ici, le manteau va convecter dans son intérieur, si c'est le manteau. Mais, bien entendu, si vous êtes à la frontière de séparation de deux milieux et s'ils ne sont pas miscibles, si vous avez un solide et un liquide, par exemple, évidemment, vous ne pouvez plus transporter votre chaleur par convection, puisqu'il n'y a pas d'échange de matière. Donc, toujours à la frontière entre deux milieux qui ne se mélangent pas, la chaleur se propage par conduction selon la bonne première loi de Fourier. Alors voilà ce qui se passe, par exemple le manteau, vous avez en haut une couche limite thermique, c'est la lithosphère. La lithosphère dont parlera le Pichon, ce sont les plaques lithosphériques. Et elles n'ont pas changé d'épaisseur depuis des milliards d'années, probablement. En dessous, vous avez une autre couche limite, c'est la couche des secondes des sismologues, très facile à repérer, bien qu'irrégulière. La vitesse des ondes S n'y est pas la même qu'ailleurs, elle est plus basse. Et puis, le gradient géothermique, le gradient adiabatique, très faible dans la partie qui convecte. Oui, j'ai oublié de le dire, quand il y a convection, alors la conduction devient un phénomène complètement négligeable et le gradient de la distribution de température dans le milieu qui convecte est toujours très voisine du gradient adiabatique. On se colle sur l'adiabate. Donc ici, voilà une couche en état de régime permanent. Le flux de chaleur phi bas est proportionnel à K, la conductivité thermique, et puis le gradient dans la couche limite du bas, qui est delta B, le saut de température dans la couche, divisé par dB, l'épaisseur. Et en haut, j'aurai la même valeur, mais K, la conductivité thermique, delta TH, divisé par dH. Et c'est ça que je pourrais mesurer. C'est grâce à cela que c'est comme ça que je mesure le flux de chaleur en surface. Et j'ai raison de le faire. Mais à l'intérieur, ça ne se passe pas du tout comme ça. J'en viens donc à l'histoire thermique de la Terre. Alors, comme pour toute histoire thermique, on aimerait bien avoir un état initial. C'est ce que l'état initial de Buffon, l'état initial de Kelvin était extrêmement simple, une température uniforme. Ici, malheureusement, c'est infiniment plus difficile. Bon, je signale tout de même en passant que la tentative de Kelvin pour fixer l'âge de la Terre par un modèle physique a été la dernière du genre, puisqu'après est effectivement arrivée la radioactivité, la découverte en 1896 par Becquerel de la radioactivité. Ce n'est pas tellement parce que ça change le modèle de Kelvin, comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas cela, mais à partir du moment où on a su dater l'âge de la Terre et des météorites par les méthodes radioactives, toutes ces bonnes méthodes physiques, évidemment, sont devenues inutiles. Au demeurant, elles étaient fausses, comme je l'ai dit. Donc, l'histoire thermique de la Terre, on ne va pas essayer de déterminer d'âge. Maintenant, l'âge est connu par ailleurs, on va essayer de déterminer comment la Terre se refroidit. J'ai dit que j'aimerais bien avoir un état initial. Pour atteindre ce but, tant bien que mal, et plutôt mal que bien, il faut prendre leurs choses à leur début et dire un mot de la formation de la Terre. Mais je pense que vous avez une conférence, pour ceux d'entre vous qui pourront, si vous avez entendu André Braït, probablement, et Philippe Masson parler de la formation des planètes. Donc je vais être très bref. Il y a donc 4,56 milliards d'années, la Terre, comme les autres planètes, se forme par accrétion du matériel de la nébuleuse solaire primitive. Un nuage, d'abord gazeux, puis devenant un nuage de gaz et de poussière, de condensation, à mesure qu'il se refroidit. Alors ce matériel est le même, et ça c'est extrêmement important, que celui dont sont formées les chondrites, les météorites les plus communes parmi celles qui tombent sur la Terre. Et c'est comme ça qu'on a réussi à déterminer la composition de l'intérieur de la Terre, pas en y allant voir directement. Donc les grains chondritiques s'accrètent pour donner des grains plus gros, puis après des sortes de petites billes, après des planétésimaux, des embryons de planètes, et puis des planètes. Et tout ça, le scénario a été maintes fois décrit, donc les blocs se heurtent, se brisent ou se soudent, l'histoire est compliquée, et la Terre en particulier se forme ainsi. Et d'après les calculs, son rayon atteint sa valeur actuelle de 6300 km, en quelques 100 millions d'années. Ça, c'est le calcul d'accrétion. Ce sont les calculs d'accrétion qui le donnent. À la fin de cette première étape, donc, je retiens seulement un seul modèle de l'accrétion homogène, il y en a d'autres. La Terre est uniforme jusqu'à ses profondeurs et la répartition de silicates, de fer. Donc, j'ai, dans ma première diapositive, montré que la Terre est essentiellement faite de fer et de silicates, différenciés aujourd'hui. Donc la concentration de fer, de silicate et d'eau, parce qu'il y a de l'eau, est la même partout. Et la Terre est certainement chaude, parce que le processus d'accrétion libère de la chaleur, de l'énergie gravitationnelle peut-être, mais beaucoup d'énergie cinétique, puisque ces morceaux se heurtent, et donc une grande bonne partie de l'énergie cinétique est transformée en chaleur. De plus, le bombardement météoritique, dont on vous a sûrement parlé, est intense au début, tout ça fournit de la chaleur. Donc la Terre, à cette époque, est chaude, mais combien chaude ? Ce n'est pas tellement facile à estimer. Est-ce qu'elle était entièrement fondue ? Actuellement, on ne le pense pas. La raison principale pour laquelle on pense qu'elle n'était pas entièrement fondue, c'est la croissance de la température de fusion avec la pression, c'est-à-dire avec la profondeur. Donc, vraisemblablement, les parties superficielles pouvaient être fondues, sans doute pas le cœur. Mais, de toute façon, je ne m'arrête pas à cette étape, ça n'est pas encore ma condition initiale. Parce que tout aussitôt, et même en même temps, le noyau commence à se former par différenciation, le noyau de fer métallique. Le fer, donc, qui est plus lourd, migre vers le centre. En haut, il percole très tranquillement à travers un liquide, et plus bas, si le manteau n'est pas fondu, il percole à travers les grains solides des silicates cristallisés. Et il met un certain temps, mais assurément il y arrive, la formule de Stokes le montre, et il se concentre au centre de la Terre. Alors, je répète, peut-être l'ai-je déjà dit, le matériau du manteau n'est pas du fer pur. En gros, c'est un alliage de fer et d'un élément léger dont des considérations géochimiques donnent à penser que c'est du silicium, de l'oxygène ou du soufre ou un mélange des trois. 10% d'éléments légers, mais il est essentiel à toute l'affaire. Et donc, ici, par exemple, l'un des effets est d'abaisser la température de fusion. Ce processus de ségrégation, de différenciation, dégage beaucoup de chaleur, parce que les particules de fer plus lourdes se dirigent vers le centre de la Terre, là où le potentiel gravitationnel est plus faible. Donc, il libère de l'énergie gravitationnelle. Cette énergie gravitationnelle va se transformer en chaleur, et l'élèvement de la température de la Terre qui résulte de cette deuxième phase, la différenciation du noyau, dépend de la vitesse à laquelle se forme le noyau. Beaucoup pensent que ça a été très rapide, quelques dizaines de millions d'années seulement pour former le noyau. Et on calcule l'élévation de température qui en résulte, et il est souvent proposé 2000 degrés. C'est-à-dire que la différenciation du noyau élève. Donc phase numéro 1, la Terre homogène, phase numéro 2, la Terre différenciée avec son manteau et son noyau, et 2000 degrés de plus. Il va sans dire que tous ces calculs sont tout à fait approximatifs et qu'il ne faut pas les prendre à 10 ans près, enfin, ou un million d'années près. Alors, j'admettrai que à la fin de cette phase, qui va être ma phase initiale ou presque, le noyau, lui, il est entièrement fondu. Ça, tout le monde l'admet, le calcul le montre. Le noyau métallique est entièrement fondu. Le manteau n'est sans doute pas encore entièrement fondu, mais il y a une couche supérieure qui est fondue. Mais évidemment, la convection est vigoureuse dans cette couche supérieure. Alors là, on peut faire de magnifiques descriptions de ce qui se passait là, il y a quelques 4,3 milliards d'années, combien ce magnifique océan de magma a été animé d'explosions, de phénomènes lumineux. Ce devait être tout à fait splendide à voir. Mais au bout d'un certain temps, forcément, il s'est refroidi. Et disons, il y a 4,2 milliards d'années, je prends ça un peu, ce n'est pas un milliard d'années près, je suis dans une situation à peu près pas très éloignée de celle d'aujourd'hui, un manteau solide, je rappelle encore une fois qu'il est fait de silicate et d'oxyde, solide au sens que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire solide à l'échelle des temps géologiques, solide pour les courtes constantes de temps, mais qui flue, qui s'écoule pour les grandes constantes de temps, et un noyau métallique entièrement fondu. Donc ça, c'était pour la formation. Alors maintenant, comment calcule-t-on le refroidissement depuis moins 4, quelque chose, milliards d'années, mettez ici 4,2 ou 4,1 ou 0, ça ne change pas grand-chose de résultat. Alors il me faut un état initial, je l'ai dit, dans le noyau, c'est assez facile. Il faut que je me donne une température au centre, qui, puisque je dis qu'il est entièrement fondu, supérieure à la température de fusion de l'alliage fer-élément léger à la pression qui règne au centre, qui est de l'ordre de 3 mégabars. Et on trouve, c'est assez solide comme estimation pour le coup, 5500 degrés. Donc je dois prendre un T0 de 0 supérieur à 5500 degrés. Ici, par exemple, j'ai pris 7000 degrés dans les petits calculs qu'on a faits, mais on peut faire un peu plus, un peu moins. Et puis, dans le noyau, alors lui, il va convecter assurément, le nombre de relais est considérable, la viscosité du noyau est extrêmement faible, et comme celle de l'eau du laboratoire. Et donc, le noyau va convecter. De ce coup, la température dans le noyau, c'est l'adiabate. C'est donc extrêmement simple, sauf que l'adiabate n'est pas linéaire, mais enfin, je simplifie un peu. Donc, la température dans le noyau, on connaît le gradient, c'est le gradient adiabatique, on connaît tout, et donc ça fixe la température à la frontière noyau-manteau. Et donc, nous voilà au début, dans une situation, pour le noyau, c'est simple, j'en viens au manteau. Je connais donc la température en bas, à la frontière noyau-manteau, Je connais la température en haut, je l'ai dit dès le début, T égale 0. Mais là, c'est très difficile à faire. Alors, je vais être un peu rapide. On ne peut faire ce calcul-là que par de gros codes numériques. Et encore, on n'est pas très sûr des résultats, comme je vais vous le montrer. Donc, voilà le problème. Calculer. On va calculer, en gros, la convection dans un, au début, au début de mes 4,2 milliards d'années, la convection dans une plaque, plutôt dans une enveloppe sphérique, dont je connais la température en bas et en haut. Il me faut ajouter quelque chose à l'affaire, c'est le chauffage radioactif, dont j'ai d'ailleurs dit tout à l'heure quelque chose. En effet, le manteau contient de l'uranium-238, de l'uranium-235, du thorium-232 et du potassium-40. Il y a un rapport extrêmement strict entre ces composants. Par contre, la valeur de l'un d'entre eux n'est peut-être pas tout à fait sûre. Les géochimistes fixent ça à quelques parties par milliard, quelques ppb. Mais, alors, là aussi, toutes ces évaluations reposent sur l'étude des météorites. Néanmoins, ils ne peuvent pas se tromper de plus d'un facteur 2, probablement. Ces matériaux vont dégager de la chaleur, que je vais appeler la chaleur radioactive. Mais en même temps, ces matériaux vont diminuer, puisque ce sont des éléments radioactifs, avec leur constante de temps, leur durée de vie. Par exemple, la durée de vie de l'uranium-238 est de 4 milliards d'années. Ce sont évidemment des éléments de très longue durée. La durée de vie de l'uranium-235, c'est 710 millions d'années. Et le thorium-232, il est abondant et c'est celui qui a la plus longue constante de temps avec 14 milliards d'années. C'est celui-là qui va continuer à chauffer pendant très longtemps. Et quand je terminerai en parlant du futur, il ne faudra pas oublier le thorium-232. Donc on ajoute ça dans le modèle. Donc finalement, on doit calculer la convection dans un modèle, dans une plaque, dans une enveloppe sphérique, dont on connaît la température en haut, en bas, et avec un dégagement de chaleur interne. Alors pour ça, on utilise des codes numériques. Bon, ça c'est à nouveau la même chose, je ne sais pas si on voit à travers, oui à peu près. Donc T égale 0, T égale 1, et on simplifie, on normalise les températures, et on met la mécanique en route. Ce n'est pas du tout simple, et vous allez voir que la convection dans le manteau, parce que le nombre de relais est même très supérieur au nombre de relais critiques, c'est très loin d'être la belle convection hexagonale dont vous avez peut-être vu des illustrations. C'est une convection complexe qui se fait par panache. Panache chaud qui monte et panache froid qui descend. Ici, vous avez un exemple simple pour un nombre de relais de 10 puissance 6, un chauffage de 10, mais c'est normalisé à quelque chose. Et vous voyez, le bleu sont des panaches qui descendent de la couche limite du haut, qui est sous la lithosphère, et la couche des secondes en bas en rouge. Et puis vous avez des panaches chauds qui tentent de monter. Mais il se trouve que dans le manteau, la convection se fait surtout, alors que la chaleur va vers le haut, la convection se fait surtout par panache froid descendant, ce qui revient au même. Bien entendu, vous avez une montée diffuse pour faire respecter la conservation de la masse, mais qui n'est pas représentée facilement ici. Donc voilà ce qu'on fait comme calcul. Je vous montre un autre exemple, je n'en montrerai pas d'autres. Transfert de chaleur dans le manteau. Voilà des calculs qui sont dus donc à Sautin et à Labrosse de mon laboratoire de géomagnétisme. Alors on fait des modélisations numériques et voilà encore des panaches chauds, des panaches froids qui descendent. Et on ne peut pas simplement calculer le flux de chaleur. On sait que la température n'est pas tellement éloignée du gradient adiabatique, elle peut quand même s'en éloigner ici de plusieurs centaines de degrés, localement, parce que vous avez des hétérogénéités de température. Ici, ce qui est dessiné, les choses vertes, ce sont des colonnes plus froides, les choses jaunes, des colonnes plus chaudes. Donc il y a des variations de température, mais en moyenne, on a la distribution selon le gradient adiabatique. Donc on fait tourner un modèle comme ça pendant 100 millions d'années, on met à l'échelle, et on regarde combien il a transporté de chaleur. C'est ce qu'on appelle un modèle paramétrisé. C'est assez laborieux. Et vous voyez, évidemment, c'est assez irrégulier. Alors, voyez par exemple ce qui se passe. Ne regardez que ces deux figures. Vous avez en haut le flux de chaleur. On peut calculer comme ça, pour chaque modèle, à chaque instant, le flux de chaleur qu'il fait sortir de la Terre. Et vous voyez qu'il fluctue. Il fluctue, mais pas tellement, de 56 à 50, de l'unité dont je parlerai tout à l'heure. La durée de ces périodes est de l'ordre de 100 millions d'années. Quant à la température, elle fluctue également. Ça, c'est la température moyenne du manteau. La température moyenne fluctue, mais elle ne fluctue que de quelques pour mille. Bon, le résultat est que c'est comme cela qu'on calcule, finalement, Je fais ça donc au temps initial. Je ne répète pas que je connais TFNM, je connais T en haut. Et je peux calculer ainsi, en le faisant marcher 100 millions d'années, la température moyenne et le flux de chaleur qui sort de la Terre. Voilà ce que je peux calculer pour une valeur du nombre de relais donnés et du taux de chauffage donné. Donc, c'est ça le modèle paramétrisé. Il me donne simplement phi en fonction de RA et de HR et T moyen du manteau en fonction du nombre de relais et du chauffage. Et ensuite, je vais continuer à faire tourner la mécanique par succession d'états quasi stationnaires en tenant compte, et c'est essentiel, que le nombre de relais change avec le temps et que le nombre de le chauffage radioactif change avec le temps selon des lois que l'on connaît assez bien. Le chauffage radioactif, c'est évident puisque les air éléments radioactifs se désintègrent. Quant au nombre de relais, c'est simplement que la viscosité intervient au numérateur et que la viscosité est extrêmement sensible à la température, selon une loi exponentielle de la forme loi d'activation. Donc quand la température diminue, et elle diminue, le nombre de relais change beaucoup et de manière exponentielle. Là, on a un grand facteur d'incertitude. Néanmoins, par ce système, en faisant marcher après donc 100 millions le modèle numérique coûteux, après on a un modèle très simple, le flux de chaleur et la température moyenne en fonction de RA et de H, et RA et H, les ai en fonction du temps, je me les donne. Donc après, le travail est fini. Et j'en viens donc à quelques résultats, donc ce que je vous avais promis, voilà donc le refroidissement de la Terre. Ben, je vais commencer, le flux de chaleur. Alors voyez ce que donne le modèle. Ici, T0 de 0, c'était supérieur à 5500, c'était 7000, en gros 7000 degrés centigrades. Ça, sont des degrés K. Bon, et je vais directement au résultat. Vous voyez que le flux de chaleur, évidemment, il était beaucoup plus intense au début, ça convectait plus. Le flux de chaleur total, ce sont les ronds bleus. Il est exprimé en térawatts, c'est-à-dire en 10 puissance 12 watts. C'est ce qui sort de la surface de la Terre. Il y en avait 140 au départ, maintenant on en trouve ici quelque chose comme 26 terawatts dans le modèle. Et on a fait la décomposition du flux de chaleur qui sort de la Terre en trois parties. La partie qui est due à la chaleur radioactive, ce sont les étoiles, et la partie due au flux de chaleur à la CMB, à la frontière noyau-manteau, pardon, qui représente le refroidissement séculaire du noyau, et puis les diamants, les carrés, le refroidissement séculaire, les triangles, c'est le refroidissement du manteau, le refroidissement séculaire du manteau. Si vous faites, en gros, actuellement, d'après ce genre de modèle, le refroidissement, le flux de chaleur qui sort de la Terre est dû pour moitié aux éléments radioactifs qui restent, et pour moitié au refroidissement séculaire, puisque noyaux et manteaux se refroidissent, continuent de se refroidir, comme l'avait prédit Calvin. C'est de la chaleur sensible. Donc, moitié-moitié. On oublie souvent, dans le bilan, le refroidissement du noyau, du manteau. Le raisonnement faux étant de se dire, puisqu'on le chauffe, il ne se refroidit pas. En fait, on le chauffe par les éléments radioactifs, mais il se refroidit quand même, et il perd de la chaleur. Donc, voilà un exemple péniblement acquis, mais c'est ce qu'on fait aujourd'hui pour essayer d'estimer le refroidissement de la Terre. Là, il s'agit du flux de chaleur. Je vais maintenant vous montrer, vous voyez, après tout cet effort, une variation de la température moyenne. Ce n'est pas la température moyenne ici, c'est la température juste sous la lithosphère. Mais pour obtenir la température moyenne du manteau, vous multipliez par 1,3. Et vous voyez que si je prends le modèle correspondant à la ligne continue, eh bien le refroidissement de la Terre, la température moyenne du manteau, vous voyez ici 0, voire 4,5 milliards d'années, elle n'a baissé que de 300 degrés. Même avec la convection, la Terre ne se refroidit pas vite du tout. Donc 300 degrés, ça peut être plus, parce qu'on peut ajouter une bonne ration de température supplémentaire au manteau. Ça ne changera pas la température d'aujourd'hui, parce que vous voyez que ça, c'est un modèle extrême où on a ajouté beaucoup de température d'une manière arbitraire, mais les deux courbes se rejoignent et font chemin ensemble à partir de quelques 3 milliards d'années. Donc la Terre ne se refroidit pas tellement. 300 degrés en température moyenne ou 500 degrés au cours de son histoire de 4 milliards d'années. Si on ne faisait appel qu'à la conduction, il est probable, le calcul on l'a fait, mais je ne suis pas sûr de vous donner le bon ordre de grandeur, la température moyenne du manteau ne serait baissée que de quelques dizaines de degrés, et peut-être moins en 4 milliards d'années. ces corps gigantesques ne se refroidissent pas facilement. Alors tout de même, c'est un modèle. Le modèle, il est plein d'insuffisances. Il ne serait pas mauvais de voir si ça colle à peu près avec les données. Alors, quelles sont les données, les contraintes principales? D'abord, qu'il y a une graine solide, la sismologie nous le donne. Donc, il faut que la graine apparaisse au cours de l'histoire thermique de la Terre. Ça suppose donc qu'à un certain instant, la température au centre de la Terre soit passée sous la température de fusion, et donc que la graine a commencé à se solidifier, et puis qu'au cours du temps, la graine a cru pour atteindre un rayon de 1221 km qu'on connaît fort bien aujourd'hui. Ça, c'est assez facile à atteindre, il suffit de jouer un peu sur la condition T0 de 0. Et on trouve assez facilement, on peut reproduire 1221 km si on s'amuse au kilomètre. Parce que changer à 0 de 0, c'est faire une translation dans le temps, T0 de 0. Mais une conséquence intéressante, c'est que la graine est jeune. C'est-à-dire que la graine a pu se former qu'il y a 2 milliards d'années au plus, comparé aux 4,5 milliards d'années de la Terre. Et il est amusant de voir qu'on retrouve ici un calcul à la Kelvin, c'est-à-dire que par un calcul purement physique, je calcule l'âge de la graine, c'est-à-dire du noyau interne solide de la Terre, qu'aucune mesure ne permet de déterminer. On ne peut pas déterminer l'acte de naissance de la graine comme on peut faire de la Terre, puisqu'on n'a aucun accès. Et donc, toujours, ce seront des modèles physiques. Et donc, voilà un modèle à la Kelvin. Je pense que l'incertitude est moins grande que l'incertitude qui portait sur l'estimation de l'âge de la Terre par Kelvin. Donc, une graine jeune. La deuxième contrainte, qui est évidemment fondamentale aussi, c'est que le flux de chaleur qui s'échappe de la Terre, on le mesure. Et on le mesure d'une manière très simple, en appliquant la première formule de Fourier. On fait un petit sondage, on mesure la température en deux points distants de 10 mètres suivant la verticale, et on mesure la conductivité thermique, et on mesure le flux de chaleur par K dt sur dz. Le flux total sortant de la Terre est de 42 terawatts, 42 10 puissance watts. L'estimation n'est pas très sûre, les mesures de flux sont assez dispersées, s'améliorent beaucoup. Il y a une grande difficulté, là, vous voyez que c'est flux continental, seulement 6, 36 sous les océans, il y aurait beaucoup à dire quand on calcule un modèle sphérique, il n'aurait sans doute pas le temps de le discuter. Donc on voudrait bien retrouver 40, or notre modèle ne donne que 42, ne donne que 26. Ah, tout de même, là, ici, juste pour vous montrer que les modèles tiennent bien compte de la naissance de la graine. Donc, la Terre se refroidit, la température atteint la température de fusion au centre, et puis ça croît. Et voici ici un modèle qui donne la croissance de la graine, mais ça ne commence qu'à 2800 millions d'années. Il n'y avait pas de graine avant. Elle arrive et son rayon croît désormais assez lentement, pour atteindre aujourd'hui donc les 1200 km. J'en étais au flux de chaleur. Donc, notre modèle ne donne pas assez de flux de chaleur. Ce n'est pas bien grave. Je ne crois pas assez au modèle pour m'alarmer beaucoup de ça, mais ça donne l'occasion de discuter de quelques difficultés. On pourrait sans doute améliorer les choses en augmentant le contenu de radioactivité, uranium, thorium, potassium. Est-ce possible de le doubler? Certains géochimistes disent farouchement pas question. On sait ça à 3% près. D'autres sont beaucoup plus larges dans l'estimation et disent « oui, vous pouvez doubler ça ». Plus difficile, il faudrait tenir... Là, j'ai pris un modèle de convection dans l'enveloppe manteau, qui est un modèle homogène, c'est-à-dire une seule couche qui convecte. Vraisemblablement, le manteau convecte en deux couches, ou a convecté, dans une partie de son histoire, en deux couches indépendantes. Manteau supérieur, manteau inférieur. Donc, il faudrait tenir compte de cela. Ça n'est pas commode. Et puis, le manteau... enfin, l'a fait les continents. Les continents sont des couvertures thermiques qui empêchent le flux de chaleur de sortir. Un flux de chaleur sort des continents, mais c'est essentiellement de la radioactivité. Donc il faudrait compliquer le modèle. Mais néanmoins, ça ne changerait pas fondamentalement l'estimation que je viens de donner d'un refroidissement lent de la Terre. Et la Terre continue en ce moment de convecter dans son noyau et dans son manteau. Et elle s'est refroidie de quelques centaines de degrés en 4,2 milliards d'années. Il me reste en 3 minutes, je vais parler, si je peux, 3 minutes du champ magnétique terrestre. Je vais être très rapide, parce que c'est un sujet à lui tout seul, que j'aime bien au demeurant. Donc, on s'accorde aujourd'hui à penser que le champ magnétique terrestre est dû à un effet dynamo dans le noyau métallique, fluide et conducteur. Les deux notions sont essentielles. La conductivité électrique du noyau aurait pu être estimée à quelque 10 puissance 6 siemens par mètre. C'est un peu moins que celle du cuivre, mais c'est bien conducteur. La viscosité du noyau, je l'ai déjà dit, c'est presque celle de l'eau. Donc un fluide qui va donc être très turbulent quand il va convecter. Alors le principe de la dynamo auto-excitée est le suivant. Des mouvements de convection animent le noyau, le fluide conducteur du noyau, métallique et conducteur, en présence d'un champ magnétique. Des courants électriques en résultent. On pourra dire, pour ceux qui se rappellent cela, il y a flux coupé, donc il y a courant électrique. Ces courants électriques entretiennent le champ magnétique même qui leur a donné naissance par induction. Il n'y a pas là de vice comme dans l'histoire du mouvement perpétuel. Tout cela est tout à fait juste. Encore faut-il fournir de l'énergie, mais c'est de cela que je vais parler. Donc le champ géomagnétique tel qu'il est observé aujourd'hui dans l'environnement de la Terre est très grossièrement celui qui serait engendré par un aimant court placé au centre de la Terre et aligné suivant l'axe de rotation. Très grossièrement. Et il est quand même une raison extrêmement forte et simple de placer les sources du champ magnétique terrestre dans le noyau fluide. C'est que, bon, je n'ai pas le temps de vous parler de l'histoire, des idées sur le champ magnétique terrestre, on a eu les idées les plus farfelues là-dessus, mais vous voyez, le champ magnétique terrestre varie très vite dans le temps. Il varie si vite qu'il varie significativement en direction et en intensité au cours d'une vie humaine. Aucun phénomène qui aurait son siège dans le noyau, dans le manteau solide, ou fluide, comme je l'ai dit, pour les grandes constantes de temps, ne pourrait présenter une telle variabilité. Seul un fluide peut en rendre compte. Le noyau, le manteau est 10 puissance 23 fois plus visqueux que le noyau. Pris en moyenne sur quelques millions d'années, le champ magnétique terrestre est strictement celui d'un dipôle axial centré. C'est tout à fait remarquable comme simplification. Alors évidemment, on ne le mesure pas depuis des millions d'années, mais on reconstitue le champ magnétique terrestre par mesure de l'intensité fossile dans les roches. Et ceci, on peut le faire sur des centaines de millions d'années. Donc, pris sur quelques 10 000 ans, le champ est strictement celui d'un dipôle axial centré, ce qui prouve bien que la rotation de la Terre est essentielle à la mécanique de la dynamo terrestre, puisque le dipôle est aligné sur l'axe de rotation. Et vous savez qu'au cours des temps géologiques, le dipôle s'est inversé un très grand nombre de fois, de nord-sud, pas ici de sud-nord, à nord-sud. Donc ces inversions séparent des périodes dites de polarité stable qui durent quelques centaines de milliers d'années. Et l'inversion elle-même se fait en un temps très court, 3000 ans. C'est très surprenant. Mais évidemment, on essaie de modéliser tout cela. Et vous savez que ce sont ces successions d'inversions, enfin des successions de polarités positives et négatives qui ont permis de dater les planchers océaniques et de quantifier la tectonique des plaques, dont on vous parlera. Donc je ne décrirai pas davantage le champ magnétique, mais je vais me borner pour rester dans le fil de mon exposé, de parler de l'énergie dont il a besoin pour se maintenir. Contre la dissipation ohmique. Alors on peut la calculer assez facilement, la puissance dont il a besoin. On peut calculer, supposer qu'aujourd'hui je fige le noyau, c'est-à-dire que je supprime tout mouvement, toute force électromotrice d'induction. Alors il est facile de montrer que le champ magnétique s'éteindrait en quelques 20 000 ans, en raison de la dissipation ohmique, c'est-à-dire de frottement des courants électriques dans un milieu qui est très conducteur, mais qui n'a pas une conductivité infinie, donc 20 000 ans. Je peux aussi calculer l'énergie que possède le champ magnétique aujourd'hui. C'est en gros le carré, l'intégrale du carré du champ magnétique, B2, intégré à tout l'espace. Je connais très bien ce qui se passe à l'extérieur, je ne connais pas bien ce qui se passe dans le noyau, c'est ça ma source d'incertitude. Ensuite, je divise donc l'énergie W par le temps tau et j'obtiens ainsi la puissance nécessaire à l'entretien du champ magnétique et on trouve 10 puissance 11 watts. Si vous vous rappelez que ce qui sort du noyau comme flux de chaleur, c'est 6 térawatts, c'est-à-dire 6, 10 puissance 12 watts, vous voyez que j'ai assez d'énergie thermique, a priori, pour entretenir la dynamo, même avec un rendement de 1 soixantième de la machine thermique. Des calculs plus savants montrent que ce n'est peut-être pas suffisant, parce que le rendement d'une telle machine serait détestable. Mais j'ai une autre source d'énergie, une seconde source d'énergie gravitationnelle. Qui produit un second champ de force de flottabilité ou d'Archimède qui s'ajoute aux forces de la convection thermique. En effet, l'élément léger constitutif de l'alliage dont est fait le noyau externe n'entre pas dans la graine quand elle se cristallise. C'est une observation courante, vous voyez ça dans les caniveaux, que la glace d'une eau sale paraît propre. Les impuretés n'y vont pas. Et on montre qu'on libère l'élément léger à la frontière noyau interne, noyau externe, et ça donne des forces de flottabilité, puisque ces éléments légers libérés sont plus légers. Et on montre comme ça, on peut récupérer 10 puissance 12 watts, 1 terawatt, d'énergie gravitationnelle. Et on montre aussi que le rendement d'une telle machine, celle-là, l'énergie gravitationnelle, est excellent. Parce qu'il faut bien perdre cette énergie gravitationnelle. Et pour la perdre, il faut la transformer en chaleur. Et pour la transformer en chaleur, il est beaucoup plus efficace de faire des courants électriques, parce que l'effet ohmique est important, que de compter sur la dissipation par la viscosité, par les mouvements visqueux, les frottements visqueux, parce que la viscosité du noyau est insignifiante. Donc 10 puissance 12 watts, donc on n'a pas de difficulté, sans doute, pour entretenir la dynamo terrestre, d'autant plus qu'on a encore à la disposition un troisième mécanisme possible, la précession. Donc, je conclue en 30 secondes. Le futur, est-ce que l'on peut... On peut évidemment se poser la question de savoir que va-t-il arriver. Je pourrais livrer quelques spéculations sur l'avenir, sur le futur de la Terre. Alors, vous savez qu'on prête au Soleil, en gros, 5 milliards d'années de vie encore. Je pense que l'estimation doit toujours être celle-là. Alors, l'équilibre entre la gravité et les forces de pression qui résultent des réactions thermonucléaires sera rompu et l'étoile s'effondrera. Est-ce que donc c'est pas la peine d'essayer de regarder plus loin pour l'avenir de la Terre ? La Terre se refroidit, c'est indiscutable. Sera-t-elle une planète morte avant que meure le Soleil ? On peut se poser la question. La graine aura-t-elle occupé tout le volume du noyau en le figeant ? Le manteau aura-t-il cessé de convecter ? Si oui, quelles seront les conséquences sur les conditions régnant à la surface de la Terre, dont j'ai dit qu'elles étaient essentiellement le résultat des interactions entre le Soleil et l'atmosphère ? Ce n'est quand même que vrai qu'en première approximation. Bon, il n'est guère facile de répondre à toutes ces questions, parce qu'on ne peut pas se contenter d'interpoler naïvement les courbes que je vous ai montrées, parce qu'au fur et à mesure qu'on refroidit, on peut changer de régime. Néanmoins, s'il fallait parier, et je vais terminer là-dessus, je parierais que les choses pourraient ne pas être très différentes de ce qu'elles sont aujourd'hui à la surface de la Terre dans 4 milliards d'années. Je vous remercie.
Merci bien.
Bonjour. Je vous remercie pour votre conférence et j'aimerais avoir une précision concernant les inversions de polarité, s'il vous plaît.
Le mécanisme de ces inversions. Bon, alors, vous savez, le champ magnétique terrestre, l'étude du champ magnétique terrestre est entrée dans une phase nouvelle il y a 10 ans avec l'avènement des gros ordinateurs. Donc, désormais, on peut tenter de modéliser les équations de la dynamo. Ce sont des équations du 18e, du 19e siècle, très classiques. Ce sont les équations de Maxwell et l'équation de Navier-Stokes pour le mouvement dans le noyau. Donc, on sait programmer tout ça. Et donc, actuellement, l'ambition d'une dizaine d'équipes de par le monde, il y en a même une dans mon labo, est de modéliser complètement le champ magnétique terrestre. On se donne les équations et on fait tourner l'ordinateur, de gros ordinateurs. Jusqu'à présent, le problème est quand même un peu hors de portée. Alors, pourquoi est-il hors de portée ? C'est que je vais être un petit peu trop technique. On n'y arrive pas parce que, au fur et à mesure qu'on fait des calculs, on fait des structures de plus en plus petites. Et si puissant que soit l'ordinateur, il ne peut pas maîtriser ça. Donc, il faut des choses artificielles pour essayer de limiter ces espèces de petites structures qui se font, qui résultent de ce que l'on n'a pas de diffusion assez importante. Et néanmoins, actuellement, ces modèles tentent à montrer des inversions, c'est-à-dire que vous avez des instabilités qui font qu'ils se renversent. Et il y a une autre méthode à faire, à laquelle je me suis consacré un peu, en collaboration avec notre ancien ministre, c'est de faire un modèle tout à fait analogique, enfin tout à fait imagé, un modèle abstrait, où l'on considère des interactions de cyclones. On essaie de simuler la turbulence qui règne dans le noyau terrestre. Le mouvement est sûrement turbulent, parce qu'un autre nombre, qui s'appelle le nombre de Reynolds, qui est inversement proportionnel à la viscosité, est très grand. Donc, l'écoulement est turbulent, les cyclones interagissent, et on peut faire un calcul qui n'est plus du tout un calcul rigoureux avec des équations de Stokes et une intégration numérique, mais une simulation qui a eu beaucoup de succès en physique dans des problèmes comparables. Et là, on trouve que c'est presque une conséquence nécessaire. Le système marche en mettant un dipôle d'un certain sens pendant très longtemps, et puis brusquement, à la faveur d'une fluctuation un peu plus grande, ils se renversent. Donc finalement, je répondrai que ces inversions du champ terrestre qui paraissent extrêmement mystérieuses, c'est une conséquence peut-être pas si compliquée que cela à comprendre de la dynamique non linéaire. Ce sont des instabilités quand les équations sont non linéaires et les réponses ne sont pas proportionnelles aux causes, une petite perturbation peut avoir de très grands effets. Et on peut faire des analogies avec des disques, des dynamo-disques, on fait tourner deux. Voilà. Disons que des équations différentielles non linéaires extrêmement simples, qui tendent à simuler, encore plus simples que ce qu'on fait, qui tentent de représenter d'une manière phénoménologique le comportement des champs terrestres, donnent des inversions. Donc j'aurais tendance à dire que finalement, ce n'est pas tellement curieux. Ça doit se produire. Alors, l'axe de rotation, il a une incidence fondamentale sur le... Alors, pourquoi est-ce que l'axe de rotation intervient dans le champ magnétique terrestre? C'est que il n'y a pas 36 forces qui agissent sur le fluide. Hein. Il y a essentiellement les forces d'Archimède que j'ai évoquées, c'est-à-dire les forces de flottabilité qui résultent des hétérogénéités de densité, donc de température ou de composition. Les forces d'Archimède fournissent l'énergie nécessaire à la dynamo, c'est celle que j'ai estimée. Mais pour qu'une dynamo marche, il faut une configuration des mouvements très particulière, et cette configuration particulière est fournie par les forces de Coriolis. Et les forces de Coriolis résultent de la rotation de la Terre. Et donc, il n'est pas trop surprenant de trouver que l'axe de rotation est inscrit dans le champ magnétique terrestre. Par contre, le fait que ces forces de Coriolis soient actives n'apprend pas tellement sur les renversements. On pourrait avoir des mécanismes sans force de Coriolis, sans que l'axe de rotation soit marqué, et qui donnerait lieu tout de même à des inversions. Mais la rotation de la Terre est un agent essentiel dans la construction du champ terrestre.
Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. J'ai une question qui n'a rien à voir avec ça, avec ce qui a été posé, mais je me pose une question, je me dis, le refroidissement évoqué, ça, d'après moi, ça peut agir sur la chaleur de la Terre, donc ça agit aussi sur l'énergie développée par la Terre. Donc, ça pourrait agir sur le champ magnétique, non ?
Ah, oui, alors vous avez même très raison. Peut-être que le changement, le flux... Oui. Quand j'ai dit que peut-être les conditions à la surface de la Terre pourraient être les mêmes qu'aujourd'hui, dans 4 milliards d'années, à une exception près que vous signalez, c'est que peut-être il n'y aurait plus de champ magnétique. Et là, ça pourrait avoir des conséquences, en fait, qui ont été beaucoup racontées dans des médias divers, sur la perte de ce bouclier contre le rayonnement, enfin le vent solaire, contre les rayons cosmiques primaires. Et donc, vous avez probablement... Il est vraisemblable que dans 4 milliards d'années, si les choses continuent leur train, il n'y aurait plus de champ magnétique. Puisque, vous voyez, la graine continue de croître, plus très très vite, et j'ai un collègue de Grenoble, enfin un ancien étudiant de chez nous, qui a montré que si la graine devient un peu trop importante, c'est-à-dire la partie solide, le champ magnétique s'arrête. Alors on sait qu'il n'y a pas de champ magnétique sur Mars et sur Vénus, en tout cas sur Vénus c'est sûr, sur Mars c'est très douteux, pourtant ils ont des noyaux. Probablement ces noyaux sont figés, ou alors ils ne tournent pas assez vite dans le cas de Vénus. Mais vous avez raison, ce serait sans doute la grande catastrophe, serait de l'extinction du champ magnétique. Je ne sais pas si on a exactement jaugé les effets dus à l'absence de champ magnétique. On a dit beaucoup de choses là-dessus, je ne sais pas si c'est très très sérieux. Par exemple, on n'a pas pu montrer de corrélation nette entre les extinctions biologiques et les inversions du champ terrestre. Mais peut-être aussi parce qu'on n'a pas su s'y prendre. Parce que quand le champ s'inverse, il ne s'annule pas, mais il devient très très faible. Donc la protection indiscutablement diminue. Néanmoins, on n'a pas pu montrer qu'à cette époque-là, il y avait des extinctions particulières. Donc je ne sais pas très bien, le champ magnétique est en danger, quelles sont les conséquences? Il faudrait regarder sérieusement. Ça n'intéresse pas tout à fait notre génération, ni celle de...
Bonjour monsieur. Est-ce qu'au fur et à mesure que les éléments radioactifs se désintègrent, on pourrait penser que la radioactivité va disparaître de la Terre? Et comment se forme, si elle disparaît, comment Comment se forment de nouveaux éléments radioactifs par quel mécanisme?
Il ne s'en formera pas. Ils vont disparaître de la Terre. Et certainement, c'est pourquoi la Terre, à terme, deviendra une boule à zéro degré. Mais le Soleil aura sans doute disparu avant. Mais l'uranium, le thorium, le potassium, ils n'ont pas de fils radioactifs dans le manteau. Donc, effectivement, ils vont disparaître avec quelques petites... Mais je vais signaler au début que le thorium-232 a une constante de temps, une durée de vie de 14 milliards d'années. Donc, tout de même, et ce n'est que divisé par deux, donc dans 28 milliards d'années, on aura encore un peu de thorium qui chauffera et qui contribuera à faire que la planète ne sera pas une planète morte. C'est pourquoi je pense que dans 4 milliards d'années... il y aura encore de la vie de la planète Terre au sens où je l'ai décrite. Mais inéluctablement, à la fin, il n'y aura plus d'éléments radioactifs dans la Terre.
Une question là, monsieur ? Non, oui, allez-y.
Oui, s'il vous plaît, oui. Qu'en est-il de l'eau dans la Terre ?
Alors, de l'eau, aujourd'hui, parce qu'il faudrait revenir au scénario de formation de la Terre, je ne sais pas si c'est ce que vous souhaitez, je suppose que Braik en a parlé, l'eau de la... On considère généralement que l'eau des océans, elle est venue de... C'est une eau secondaire, dans le cas de la Terre. Les océans se sont formés après la formation homogène, mais assez rapidement. Donc, l'essentiel de l'eau de la Terre est venu à la surface de la Terre. Il y a encore de l'eau en profondeur. Par exemple, on a constaté que dans les forages les plus profonds, mais qui atteignent quelques 15 km actuellement en Allemagne, il y a toujours de l'eau. Cependant, on peut dire pour simplifier que l'eau de la Terre est essentiellement dans ses enveloppes superficielles. L'atmosphère, enfin l'océan d'abord, l'atmosphère, les nappes phréatiques. Alors, votre question, c'est de savoir ce qui pourrait lui arriver ou...
C'est bon.
L'eau est évidemment essentielle, mais surtout dans les enveloppes externes de la Terre, dont je n'ai pas parlé. L'eau, c'est ce qui fait, comme vous le savez, ce qui fait la particularité de la Terre, et le fait qu'on y vit, tout cela, c'est l'eau, mais c'est l'eau de ses couches superficielles. L'eau dans la masse de la Terre existe, et on découvre son importance de plus en plus. On découvre, par exemple, l'importance de l'eau dans les tremblements de Terre, parce que ça lubrifie les failles. Les fluides que l'on croyait avant concentrés dans une enveloppe très superficielle, en fait, se trouvent beaucoup plus profondément enfouis qu'on ne le pensait, et même dans la lithosphère, l'eau est importante. L'eau, évidemment, est importante dans les aux dorsales océaniques, où l'on voit toutes ces circulations hydrothermales. Mais l'eau ne change pas du tout les calculs que j'ai pu vous présenter aujourd'hui.
Une dernière question, monsieur.
Oui. Est-ce que le champ électrique induit pourrait nous renseigner sur la morphologie du manteau et du noyau éventuellement ?
Ah oui. Pour ce qui est de la division de la Terre en grandes enveloppes, la discipline raide, c'est la sismologie. Donc c'est très bien fait. On connaît on connaît bien le rayon de la graine, on connaît les enveloppes sphériques. Par contre, la sismologie est incapable de donner la dynamique. En étudiant le champ magnétique et ses variations, on peut voir les mouvements à l'intérieur des noyaux. Donc on voit au moins la partie de la convection des couches superficielles. C'est ce qu'on le calcule. Donc le champ magnétique c'est ce qui permet d'étudier le noyau dynamique. Et il permet aussi d'étudier la conductivité électrique du manteau. Pas tellement la dynamique du manteau, parce que le manteau est très peu conducteur et n'a pas de véritable effet sur le champ magnétique dans ses profondeurs. Le champ magnétique, donc c'est le noyau, le champ magnétique. Mais tout ce que l'on dit sur la dynamique du noyau, ça vient du champ magnétique. Pardon, votre
appel. Allez-y.
Excusez-moi. On a une source électrique centrale et on n'arrive pas selon... Parce que la sismologie, on n'a que des points, des sources qui sont éparses.
Les sources du champ magnétique sont des courants électriques qui emplissent tout le noyau. C'est une distribution de courants électriques dans le noyau conducteur, dont on ne connaît pas le détail. Mais c'est une densité de courants électriques qui est entretenue par les mouvements, par cet effet d'autodynamo, de dynamo auto-excité dont je vous ai parlé. Le fluide du noyau se meut à l'intérieur du champ magnétique qu'il crée. Donc, il y a un champ magnétique à l'instant T. Vous faites se mouvoir un fluide conducteur. Il y a flux coupé, vous avez des courants électriques perpendiculaires. Ces courants électriques engendrent un champ magnétique. C'est ce champ magnétique même qui a servi à entendre ces courants électriques. Alors ça marche indiscutablement. C'est ce que donnent les modèles de dynamo extrêmement élaborés des codes numériques. Mais donc, ce sont des sources diffuses, ce sont des courants électriques. Et à partir de ce qu'on observe à 3000 km de là, ce qu'on observe à la surface de la Terre, on peut reconstituer un certain nombre de caractéristiques des mouvements de la dynamo. Et en tout cas, les théories de la dynamo ne peuvent pas ne pas tenir compte de ce que l'on observe dans les observatoires magnétiques ou par les satellites.
Monsieur Lemoyle, je vous remercie.
Merci.